Nous continuons, pardon, dans notre étude de 2 Corinthiens.
We are continuing in our study of 2 Corinthians.
J'ai oublié de dire que pour ceux qui sont intéressés, nous aurons un pique-nique après le culte, juste au parc à côté où il y a des jeux pour les enfants, et que vous êtes tous invités à vous joindre à nous. Comme vous le savez, nous avons pour habitude de progresser dans la parole, chapitre par chapitre, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset.
And as you know, our habit is to work through the Bible, book by book, chapter by chapter, verse by verse.
C'est très important pour nous.
It's very important for us.
Parce que nous estimons que toute la parole de Dieu est la vérité.
Because we consider that every word in the Bible is truth.
Et ce qui est merveilleux, c'est que ça nous permet de n'éviter aucun sujet. Et aujourd'hui, nous abordons un sujet que peut-être je préférerais éviter d'aborder. C'est un sujet qui souvent porte à controverse.
It's a very controversial subject.
C'est celui de l'argent.
Money.
Et c'est vrai que trop souvent, l'argent a été un sujet de problème dans l'Église.
And it's true that too often money has been a problem within the church.
Je sais que mon père, qui avait reçu une éducation chrétienne quand il était jeune, ne voulait plus aller à l'Église parce qu'il disait que chaque fois qu'il allait là-bas, on lui demandait de donner de l'argent.
Pierre's father, who had a Christian upbringing, decided at one point to no longer go to church because he felt that every time he went, they were begging for money.
Alors désolé si vous êtes là pour la première fois.
So Pierre apologizes if you're here for the first time.
Et vous dites, ça y est, on va encore nous parler d'argent.
And you're thinking, here we go again, talking about money.
Je vous promets, vous pouvez écouter les enregistrements.
Pierre promises that if you listen to any of his teaching tapes.
On en parle parce que Dieu nous en parle ce matin.
He's speaking about it today because God is talking to us.
Et je crois que c'est très important d'en parler, en fait.
And it's very important to speak of it.
Parce que nous allons voir qu'en fait, ça doit être un élément très important de notre vie.
And you're going to see that it can be a very important aspect of our life.
Et il est très important, on entend trop souvent ce que le monde non chrétien qui rejette Dieu pense de l'argent. Et on ne sait pas ce que Dieu pense de l'argent.
But we don't know what God feels about money.
Il y a des choses très importantes à nous dire ce matin.
And he has some very important things to tell us today.
Et dans le contexte de la lettre aux Corinthiens,
and in the context of this letter to the Corinthians,
nous allons voir que Paul,
we will see that Paul
écrit à ces chrétiens de Corinthe au début de l'ère chrétienne,
is writing to the Christians in Corinth at the beginning of the Christian era.
Et que ce qu'il leur dit, ça dégage des principes qui sont toujours valables aujourd'hui pour nous. Le sujet, c'est comment offrir gracieusement. Le mot grâce est un mot clé dans la foi chrétienne. Ça veut dire recevoir sans mériter aucunement.
It means to receive without any merit.
La grâce de Dieu, c'est ce qu'il nous donne alors que nous ne méritons rien.
The grace of God is what we receive without having deserved anything.
Mais c'est vrai que dans le langage courant, on entend parler des fois d'une offre gracieuse.
But it's true that in common language, we interpret it as a gracious offer or giving.
On dit ça a été offert à titre gracieux.
There's even a phrase that says it was given graciously.
Ça veut dire qu'on n'a pas eu à payer pour ça.
It expresses that we had nothing to pay in giving.
Nous allons donc voir ce que Paul écrit à ces chrétiens de Corinthe.
So we'll look at what Paul is writing to the Christians in Corinth.
Il s'agit du deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 8.
And we'll begin in the second letter to the Corinthians, chapter 8.
Et nous allons lire ensemble les 15 premiers versets.
And let's read together the first 15 verses.
Je lis dans la Bible à la colombe, la version à la colombe, verset 1 du chapitre 8. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Quoique très éprouvés par des tribulations, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités. Selon leurs possibilités, je l'atteste, et même au-delà de leurs possibilités, de leur plein gré, ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de participer à ce service en faveur des saints. C'est plus que nous avions espéré. Ils se sont donnés d'abord eux-mêmes au Seigneur et à nous par la volonté de Dieu. Aussi nous avons exhorté Tite à achever chez vous cette œuvre de grâce comme il l'avait commencée. De même que vous excellez en tout, en foi, en parole, en connaissance, en empressement de tout genre, et en tout amour et en votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi en cette œuvre de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'empressement des autres la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus. Car cela vous convient, à vous qui, dès l'année dernière, avez été les premiers non seulement à faire cette collecte, mais à la vouloir. Maintenant donc, achevez de la faire, afin que bonne disposition manifestée dans le vouloir corresponde l'achèvement selon vos moyens. Les bonnes dispositions, quand elles existent, sont agréables en raison de ce qu'on a, mais non de ce qu'on n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente, votre abondance pourvoira à leur indigence, afin que leur abondance pourvoie pareillement à votre indigence, de la sorte il y aura égalité, selon qu'il est écrit, celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait peu ne manquait de rien. Nous allons nous arrêter là pour commenter ce passage. Paul avait abordé ce sujet dans la première lettre aux Corinthiens.
Paul has already touched on this subject in the first letter to the Corinthians.
Et peut-être nous allons lire ensemble 1 Corinthiens 16, 1 à 4.
And let's look at 1 Corinthians 16, 1 through 4.
Mm-hmm. Quelques pages auparavant.
Just a few pages before.
Paul leur écrivait déjà, « Pour la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres ceux que vous aurez approuvés pour porter vos dons à Jérusalem. S'il vaut la peine que j'y aille moi-même, ils feront le voyage avec moi. » Et donc, déjà, il expliquait que cette collecte qu'il suscitait, c'était pour les chrétiens de Jérusalem.
So Paul has already told him that this offering or collect that he is asking for is for the Christians, the believers in Jerusalem.
Il apparaît que les chrétiens de Jérusalem, qui étaient là où l'Église était née, vous vous souvenez de la Pentecôte, lorsque tous les apôtres étaient réunis, que l'Esprit Saint était venu sur eux, et qu'après un premier sermon, il y avait eu 3000 personnes qui étaient venues à Christ. Et tout ce que l'on sait, c'est que les chrétiens de Jérusalem étaient, quelques années plus tard, frappés d'une grande pauvreté.
And we know that a few years years later, the Christians in Jerusalem were struck by great poverty.
On imagine plusieurs raisons.
We can think of several reasons why.
Tout d'abord, tous ces Juifs qui s'étaient convertis à la Pentecôte.
All these Jewish people who were converted on the day of Pentecost.
Ils voulaient être enseignés dans la foi en Christ.
Wanted to be taught in the faith in Christ.
Et ils étaient restés à Jérusalem.
So they stayed in Jerusalem.
C'est donc des étrangers sans emploi qui étaient à la charge de l'Église.
So they were foreigners in a sense without work that had to be supported by the church.
Le livre des Actes nous dit qu'il y a eu aussi une grande famine.
And the book of Acts tells us that there was also a great famine.
Le prophète Agabus, dans Actes 11, avait déclaré par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre entière, 11-27, et que cette famine eut lieu en effet sous Claude, et les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée, c'est-à-dire la région de Jérusalem, et c'est ce qu'ils firent, ils l'envoyèrent aux anciens par les bains de Barnabas et de Saul, Saül.
In Acts 11, verse 27, there was a prophet by the name of Agabus who prophesied a great famine. And then there was a request made that the disciples take a contribution to relieve the poor, the poverty.
Une autre raison, c'est peut-être qu'ils étaient trop généreux avec leurs biens.
Another reason for the poverty is that perhaps they were too generous with their belongings.
Il est dit qu'en fait, ils mettaient tout en commun. C'était un communisme avant la lettre. À la différence que ce n'était pas quelque chose qui était imposé par l'État. Mais c'est quelque chose qu'ils faisaient de plein gré, de leur propre volonté, sentant que Dieu leur demandait de faire cela. Toujours est-il que, quelle que soit la combinaison des raisons, il y avait de grands besoins financiers à Jérusalem. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les païens, les Grecs de ces églises auxquelles Paul parlait, dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, les Philippiens, toutes ces églises composé de non-juifs.
What's interesting is that the non-Jewish people, the Gentiles that Paul was addressing in these letters to Corinth,
ils avaient en fait une grande dette spirituelle envers ces chrétiens de Jérusalem.
Owed a great spiritual debt towards the Christians in Jerusalem.
Ils avaient pu entendre l'évangile parce que ces chrétiens de Jérusalem avaient tout donné pour qu'il y ait des missions, que Paul et Barnabas et les autres s'en aillent prêcher la bonne nouvelle. Et Paul, dans Romains 15-27, disait que c'est vrai, en fait, les païens ont pris part aux avantages spirituels et donc ils doivent rendre un service dans les questions matérielles au sein de Jérusalem.
Paul even mentions in Romans 15:27, the Gentiles have shared in their spiritual things, and they are indebted to minister to the Jews in Jerusalem also in material things.
On pourrait dire aujourd'hui que les églises filles avaient une responsabilité envers l'église mère de Jérusalem.
And we could say today that these daughter churches had a financial responsibility towards the mother church in Jerusalem.
Peut-être que vous ne le savez pas, mais nous avons une église mère ici à Calvary-Chapelle, Nice. Notre église mère, c'est Calvary-Chapelle de Seattle.
Our mother church is Calvary-Chapelle in Seattle.
Pour nous, pour eux, nous sommes aux extrémités de la terre.
For them, we are at the end of the earth.
Et c'est vrai qu'il faut non seulement traverser l'Atlantique. C'est long à la nage.
That's a long way swimming.
Mais après, il faut traverser tous les États-Unis pour arriver à pied à Seattle, sur la côte pacifique. Et si aujourd'hui nous pouvons nous réunir,
and if today we are able to come together,
c'est parce que plus de près de depuis près de 10 ans,
it's because for almost 10 years,
des chrétiens tout là-bas,
Christians, all of whom are there,
des églises,
churches,
veulent que vous entendiez l'évangile.
Desire that you are able to hear the gospel.
Ils nous envoient non seulement leurs prières, leur amitié, des fois des personnes, mais ils nous envoient un soutien financier.
They send us not only their friendship, their prayers, support financially.
Vous donnez aussi gracieusement.
And you have been giving graciously too.
Pour subvenir aux besoins, il faut louer cette salle, il faut du matériel, il faut des ressources. Et nous sommes encore peu nombreux.
And we are still a relatively small group.
Nous ne sommes pas très riches.
We aren't wealthy.
Encore que tout dépend à qui on se compare.
Of course, that's all relative to whom we're speaking.
Mais pour l'instant, nous avons été plutôt des personnes qui recevaient le soutien plutôt que des personnes qui envoyaient le soutien à l'église mère. Peut-être qu'un jour on sera vraiment mûr et on sera en mesure d'aider notre église mère de Seattle. Et quelque part, ce sera un juste retour des choses. Ils continuent de nous aider. Nous avons encore des personnes qui nous envoient des dons importants pour nous aider avec l'acquisition et la rénovation du local de Magnan. Et c'est vraiment un exemple pour nous de voir comment ces gens peuvent se priver de certaines choses. Ces églises peuvent mettre Calvary Chapel Nice comme une priorité dans leur budget. Paul va encourager les Corinthiens.
Paul is going to encourage the Corinthians
à la générosité.
To generosity.
Paul n'aimait pas trop parler d'argent.
Paul didn't like speaking of money.
Parce qu'il savait que c'était souvent un sujet de critique des non-croyants.
Because he knew that non-believers often chose it as a subject of criticism.
On sait qu'il ne voulait dépendre de personne financièrement. Et c'est pour ça qu'il avait un job.
And that's why he had a profession.
Il ne demandait pas des droits d'auteur sur ses lettres.
He didn't ask for the author's rights for his letters.
Imaginez pendant 20 siècles les droits d'auteur qu'il aurait pu anticiper.
Imagine the author's rights that he could get on these letters he's written over the last centuries.
Il avait un travail de fabricant de tentes.
His job was to make tents.
Et donc il pouvait annoncer la parole et puis le soir le matin il cousait des tentes.
So he would proclaim the word and then in the evening he would work on making these tents.
Et donc le sujet de l'argent, c'était aussi un sujet qui le gênait. Mais il ne voulait pas l'éviter pour ne pas éviter de donner une occasion de bénédiction. Et là, pour encourager les Corinthiens à donner gracieusement, avec joie, sans contrainte, il va prendre deux exemples. Le premier, ça va être de leur rappeler, de leur faire savoir ce qu'ont fait les chrétiens de Macédoine. Un peu comme je vous ai parlé des chrétiens de Seattle.
Pierre talked to us about the Christians in Seattle.
Il s'agit pas de manipuler les choses en faisant une compétition avec deux thermomètres, un thermomètre pour les Corinthiens, un thermomètre pour les Philippiens, en voyant où qui donne le plus.
It wasn't a question of manipulation where Paul was putting the Philippians, the Corinthians, and maybe the Macedonians up and comparing how much they gave.
Mais souvent, nous pouvons être incités aux bonnes œuvres par l'exemple des autres. C'est une des raisons de la communion fraternelle de l'Église, c'est de voir que d'autres vont au-delà de ce que nous faisons et se disent c'est vrai, c'est possible. Et en fait, en Grèce, il y avait deux régions. Il y avait la région du nord, ce qu'on appelait la Macédoine. C'était donc la Macédoine. Et au sud, c'est la péninsule, vous savez, cette grande presqu'île, c'est ce qu'on appelait l'Achaïe.
Achaïa.
Au nord, c'était les églises de Philippe, de Bérée, de Thessalonique. Au sud, il y avait bien sûr Corinthe, il y avait Athènes, il y avait des grandes villes prospères. Et en essence, Paul dit, vous devriez voir ce qu'ils font en Macédoine, c'est formidable. Et c'est ce qu'il leur dit, nous nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Quoique très éprouvés par des tribulations, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités, selon leurs possibilités, je l'atteste, et même au-delà de leurs possibilités, de leur plein gré. Ils étaient persécutés.
They were persecuted.
Mais comme Paul le disait au chapitre précédent, verset 4 du chapitre 7,
but as Paul told us in verse 4 of the preceding chapter 7,
ils débordaient de joie au milieu de toute notre affliction, comme Paul, verset 4 du chapitre 7.
He was overflowing with joy in all their affliction.
Il y a une différence entre le bonheur et la joie profonde. Pour être heureux, il faut des circonstances favorables.
To be happy, we need favorable circumstances.
Et on vit dans la peur que quand on est heureux, que nos circonstances changent.
And when we are happy, we live in fear that perhaps our circumstances will change.
Un être cher va mourir.
Maybe a loved one will pass away.
On va perdre un travail.
We might lose a job.
Et à ce moment-là, adieu le bonheur. Alors que la joie profonde, elle vient d'une relation intime avec Dieu.
And in contrast, profound joy comes from a deep relationship with God.
On a cette assurance d'être aimé par lui.
We are assured, we have confidence that we will be led by him.
On a l'assurance d'une éternité avec lui.
And an assurance that we will have spent eternity with him.
Et si les circonstances sont bonnes, tant mieux. Si elles ne sont pas bonnes, tant pis.
And if circumstances are good, all the better. But if they are not good,
mais la joie demeure.
But joy abides, it continues.
Et donc eux, ils étaient débordants de joie malgré les persécutions.
So they were overflowing with joy in spite of persecution.
Paul dit qu'ils ont Ils étaient très pauvres, mais très généreux. Et on a l'impression que Paul se contredit. Il dit qu'ils donnaient selon leurs possibilités et même au-delà.
Il
faudrait savoir, Paul, c'est selon ou c'est au-delà?
Paul
Ça, ça doit nous faire penser à un exemple que Jésus utilisait lorsqu'il parlait aux disciples. Dans le sermon sur la montagne, Jésus avait dit aux disciples de ne pas donner pour être vu des autres. Il disait, verset 3 ou 2 de Matthieu 6, « Quand tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et donc il y avait des troncs pour les offrandes devant le temple. Et ces hommes religieux, quand ils venaient donner, faisaient sonner la trompette. Regardez ma générosité. Et ça vous dégoûte, j'espère. Ça dégoûtait Jésus. Par contre, il avait remarqué une petite vieille. Il nous en parle dans Marc 12:41. Et donc, il était là, il regardait comment les gens donnaient de l'argent.
How they were.
Et peut-être que, sans vouloir spiritualiser, que lorsque nous passons pas la corbeille.
And maybe without spiritualizing too much, you notice that we don't pass the baskets.
Peut-être lorsque nous donnons, Jésus est là qui regarde.
Maybe when we give, Jesus is there watching us.
Et donc il dit, plusieurs riches mettaient beaucoup. Et puis il y a une pauvre veuve qui est venue, qui a mis deux toutes petites pièces. Et ça faisait, notre version à la colombe dit, un quart de sou. Ça fait pas beaucoup d'euros, ça. Sans doute, c'est vraiment la plus petite somme imaginable. C'était à l'époque, c'était leur pièce de 1 centime d'euro. Le mot qui était utilisé, ça voulait dire épluchure. C'était un truc si fin, si léger que c'était presque comme de la pelure d'oignon. Si cet argent avait été utilisé pour l'entretien du temple, ça aurait peut-être permis de faire brûler de l'huile dans un chandelier pendant une minute ou 30 secondes. Et pourtant, depuis ce moment-là, on parle de la générosité de cette pauvre veuve. Jésus disait, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre.
For they all put in out of their surplus, but she, out of her poverty, put in all she owned, all she had to live on.
Autrement dit, elle donnait 100%.
In other words, she gave 100%.
Pourquoi est-ce que ça plaît tant à Dieu, ça?
Why does that please God so much?
Parce que c'est une preuve d'une foi inébranlable.
Because it's a proof of an unshakable faith.
Nous savons que sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu.
We know that without faith, we can't please God.
Et si Bill Gates nous donne 100 millions de francs,
and if Bill Gates gives 100 million francs,
nous serons très contents.
We're very content.
Mais est-ce que ça va être quelque chose d'important pour lui?
But is that a big amount for him?
Une pauvre personne qui va donner simplement 50 francs,
a poor person who will merely give 50 francs,
sans savoir comment elle va pouvoir faire des provisions le lendemain,
not knowing how she's going to provide the next day,
c'est un don bien plus important.
That is a much more important gift.
Et elle ne savait pas que Jésus l'observait, qu'on allait parler d'elle aujourd'hui à Nice, à la maison du séminaire.
And this old widow didn't know that Jesus was going to speak about her and that we would talk of her today at the seminary.
Elle ne le faisait pas pour impressionner les gens.
She wasn't doing it to impress people.
Et si vous avez une voiture, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de voiture ici, mais si vous avez une voiture et une télé,
and if you have a car, Pierre knows that many of you don't, but if you have a car and a television,
vous faites partie des 5% des gens les plus riches sur la Terre.
You are a part of the 5% of the most wealthy people on this earth.
Souvent on se dit la richesse est une question de la générosité, c'est une question de montant.
Often we say that giving is a question of the amount.
Non, c'est une question de cœur. Encore une fois, il peut y avoir le réflexe que tout ce qui parle de tout ce qui touche à l'argent, c'est mauvais.
And again, we can have the reaction that anything dealing with money is bad.
Et c'est vrai que l'argent est souvent associé à des tas de mauvaises choses.
And it's true that money is often associated with bad things.
À la drogue, à la prostitution dont on parlait tout à l'heure.
Drugs, prostitution, we were talking about earlier.
À la violence, à la mafia.
Mafia.
Mais ce qui est mauvais, c'est pas l'argent en lui-même.
But what is bad is not the money itself.
C'est l'amour de l'argent.
It's the love of money.
L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, disait même Paul dans 1 Timothée 6. Et ce qui est frappant, c'est que ces pauvres chrétiens de Macédoine, ils ont fait ça de leur plein gré de donner, c'est marqué verset 3.
In verse 3 it tells them that they gave willingly.
Donc Paul, on a le sentiment qu'il disait non, vous n'avez pas assez de revenus pour donner. Mais ils ont donné au-delà de leurs possibilités.
But they gave beyond the possibility they had.
Paul leur disait, mais non, vous n'avez pas assez. Ils ont dit, si, on veut donner. Ils ont même supplié Paul. C'est ce qu'il est dit au verset 4.
Verse 4 communicates that they were begging with Paul to be allowed to give that much.
Ils voulaient donner parce qu'ils considéraient ça comme un privilège.
They wanted to give, they considered it a privilege.
Et souvent, c'est vrai que ce sont les gens les plus pauvres qui sont les plus généreux.
And it's true, it's often the poorest people who are the most generous.
Vous avez peut-être déjà fait l'expérience de la riche hospitalité des gens très humbles financièrement.
You may have also experienced the wealthy hospitality of people who have very little means.
Je me souviens avoir été reçu en Italie dans des familles qui voulaient vous donner leur lit, leur maison.
Gave us their bedrooms, their houses.
Et on me dit que c'est comme ça dans les pays de l'Est. Je sais que c'est comme ça dans les pays africains, dans les pays du Maghreb. Les gens n'ont pas grand-chose, mais ils sont prêts à tout vous donner. Et Paul dit, c'était plus que nous avions espéré. C'était verset 5. C'était plus que... Non, non, répète. C'est plus, bien plus que ce que nous pouvions attendre. Mais la question, c'est pourquoi? Parce qu'ils avaient la bonne attitude dans leur cœur. Verset 5, ils se sont donnés d'abord eux-mêmes au Seigneur. Le Seigneur, Dieu n'a pas besoin de votre argent. Je suis désolé, peut-être vous pensiez avoir un petit moyen de pression sur lui, mais il n'a pas besoin de votre argent. Ce n'est pas votre argent qu'il veut.
It's not your money that he wants.
C'est vous qu'il veut. C'est votre cœur. Il veut que vous réalisiez qu'en fait, vous ne vous appartenez pas vous-même. C'est lui qui vous a créé. C'est lui qui vous a racheté. Vous lui appartenez que vous le vouliez ou non. Et se donner au Seigneur, c'est reconnaître cette réalité. Et lorsque l'on fait cela, la générosité, elle est toute naturelle. Ils s'étaient donnés au Seigneur, ils s'étaient donnés aussi à Paul. Ça veut dire qu'ils avaient reconnu son autorité dans leur vie, son ministère auprès d'eux. Réalisez aujourd'hui, si vous ne l'avez jamais fait, que tout appartient à Dieu. Même votre compte à la caisse d'épargne, même l'héritage de la tante Nanette, votre travail, votre compte en banque, tout appartient à Dieu. Job 41, « Sous tous les cieux est à moi, dit le Seigneur. » Le psaume 24, « Toute la terre et ce qui la remplisse appartiennent à l'Éternel. » Ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous n'êtes pas à vous-même. 1 Corinthiens 6, 19. Et on pourrait multiplier les exemples. Les versets qui disent qu'en fait, tout appartient à Dieu. C'est des versets qui libèrent aussi, ça enlève le stress de la vie quotidienne. J'ai pas à me faire du souci, ça lui appartient, c'est lui qui va s'en occuper. Et donc, après avoir pris cet exemple des Macédoniens, Paul va continuer en encourageant les Corinthiens à la générosité. Et donc, ce qui apparaît dans les versets 6 à 9, à 8, c'est que un an auparavant, les Corinthiens avaient dit « D'accord, on va aider ».
Yes, we'll give.
Mais apparemment, rien n'était arrivé à Paul. C'est pour ça qu'il envoie Tite pour remuer un peu les choses. Il y a un proverbe en français, une expression, qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Autrement dit, c'est pour dire que c'est pas le tout d'avoir des bonnes intentions. Si on ne les met pas en pratique.
If we don't put them into practice.
Il y a un grave danger.
There is a serious danger.
Et on l'a déjà évoqué en étudiant cette lettre de Paul.
And we've already mentioned it before in this letter.
De croire parce qu'on a pensé à faire une chose que le Seigneur nous demandait.
To think that because we have thought of doing something the Lord has asked of us.
Que ça revient au même que si on l'avait fait. Oui, je sais qu'un tel est dans le besoin.
I know that someone is in need.
Je vais aller le voir, la voir, lui donner quelque chose.
I'll go visit them and give them something.
On est tout content de cette bonne intention.
And we're all happy about our good intention.
Dans nos neurones, il y a ce sentiment de générosité à l'avance qui nous fait du bien quelque part.
And in our minds, we already have this good feeling about our generosity even before.
Que ce soit en donnant des dons financiers ou simplement en donnant un don d'attention en allant prendre des nouvelles de quelqu'un. Et puis, on ne donne pas suite. C'est très dangereux. Et dans Jean 13, 17, Jésus disait aux disciples, après avoir lavé les pieds des disciples, vous souvenez que personne ne voulait prendre cette position humble, et lui, le maître, avait lavé les pieds les uns des disciples. Et leur donner un exemple, il disait, faites comme moi. Et il disait, verset 17, si vous savez cela, vous êtes bénis, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Est-ce que c'est un problème des fois chez vous de penser à faire quelque chose de bien, de vous sentir interpellé par le Seigneur? Et de ne pas donner suite. Que votre oui soit oui, votre non soit non, tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Ne pensez pas que je prêche seulement pour vous, je prêche pour moi là. Combien de fois je remets au lendemain des choses que le Seigneur me demande de faire le jour même? Vous souvenez, nous avions dit en parlant de maintenant et le jour du salut, maintenant et tout ce que nous avons. Hier est passé, il n'est plus à nous. Demain n'est pas là, c'est pas à nous. C'est maintenant qu'il s'agit de mettre en pratique ce que le Seigneur nous demande de faire. Vous souvenez, dans 1 Corinthiens, on avait vu que l'église de Corinthe était une église, on dirait aujourd'hui, charismatique. Parce qu'ils mettaient plus d'importance sur les dons de l'esprit que sur l'amour qui devait être transmis par ces dons de l'esprit.
They gave more importance to those than the love that was supposed to be communicated by these gifts.
Ils considéraient les dons comme une fin en soi.
They considered the gifts as an end in themselves.
Et quelqu'un faisait remarquer très justement qu'il préférait les dons de l'esprit. Plutôt que l'esprit qui doit animer les dons. Les dons de l'esprit sont une chose à laquelle nous croyons. C'est une chose très importante. Mais l'auteur des dons est encore plus important que les dons. Et la façon dont nous répondons est plus importante que des dons. Paul leur dit qu'ils excellaient en tout, en foi, en parole, probablement en don de parole, en don de connaissance, en empressement de tout genre.
Paul tells them that they were abounding in everything, faith, in words of knowledge, these different gifts.
Mais il leur dit d'exceller aussi dans la grâce du don.
But he exhorts them to excel in the grace of these gifts.
Exceller aussi en cette œuvre de grâce. Et on peut penser que c'est un peu bizarre de parler de grâce pour donner. Parce que d'habitude, quand on parle de grâce, c'est pour recevoir quelque chose qu'on ne mérite pas. Pourquoi est-ce que la grâce est lié à la générosité?
Why is grace connected with generosity?
Il faut remarquer que la capacité de donner, c'est un cadeau de Dieu déjà. On le reçoit par grâce.
We need to know that the ability to give is already a gift from God. It's His grace.
Le désir de donner, c'est aussi un cadeau de Dieu.
The desire to give is also a gift of God.
Dans notre état naturel, on a plutôt tendance à retenir qu'à donner.
We have a tendency to cling to things, to keep things, rather than to give.
Si vous en doutez, demandez à Becky de vous inscrire pour l'école des bébés la semaine prochaine.
If you doubt this, ask Becky to let you be with the babies next week.
Et vous verrez que naturellement, on ne donne pas.
And you will see that naturally, we don't give.
Et être généreux, c'est une preuve de l'œuvre de Dieu dans votre cœur. Mûrir, devenir mature dans le Seigneur, va vous conduire à davantage de générosité. Et nous connaissons des personnes qui ont une grande générosité parce qu'ils ont une profonde intimité avec le Seigneur. Il y en a parmi nous ici. Pour ne pas le citer, le papa de Pamela est quelqu'un d'extrêmement généreux. Tu voulais pas le citer? Il n'est pas là, on lui passera pas la cassette. Si on a le malheur de dire, tiens, c'est beau ce que vous avez, tout de suite, il vous le donne. On n'ose plus rien dire. Quelque part, la générosité nous embarrasse parce qu'elle est une réflexion de notre manque de générosité. Et c'est très important de connecter la faculté, la volonté de donner avec la grâce de Dieu. Parce que ça nettoie le concept de don, surtout de don financier. Ça enlève le côté forcé, le côté mécanique, le côté de pression.
That being forced, of being manipulated, pressure,
du légalisme.
Or legalism.
Et comme le dit Alan Redpath, un auteur anglais,
and as a British author says, Alan Redpath,
ça élève le sujet dans l'atmosphère la plus belle
that elevates the subject to the most beautiful,
de tout ce qui est beau, de tout ce qui est admirable, de tout ce qui est bon, de tout ce qui est glorieux. Il y a une grande joie à donner lorsqu'on on fait le lien avec la grâce qu'on a reçue, la grâce qu'on veut, dont on veut témoigner. Et Paul n'a pas eu à les manipuler. Il ne veut pas les manipuler. Il ne veut pas les forcer. Vous savez comment on appelle un don forcé?
You know what we call a forced gift?
Ça s'appelle un impôt.
That's a tax.
Paul leur dit qu'en fait, donner, ça va être une façon de mesurer la sincérité de leur amour.
Paul tells them that giving is a way of measuring the sincerity of their love.
Si vraiment on offre, on aime le Seigneur, on ne va pas avoir de mal à donner pour son œuvre, pour son royaume, pour ses enfants. Et c'est vrai qu'on n'a pas de mal à dépenser de l'argent pour les choses qu'on aime. Est-ce que vous pensez à des choses que vous aimez? J'ai pas eu de mal à dépenser 139 euros pour acheter un graveur pour mon ordinateur. J'étais d'autant plus content que je l'ai acheté chez Darty et qu'ils m'ont remboursé la différence et qu'ils m'ont offert le champagne. Vous, c'est peut-être pas l'ordinateur. Peut-être c'est la planche à voile. Peut-être c'est à vous de mettre la chose que vous aimez, pour laquelle vous êtes prêt à donner beaucoup. Si nous avons le cœur au bon endroit, alors notre main va s'ouvrir. La loi spirituelle, Jésus l'a dit, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Pas là où est votre cœur sera votre trésor, c'est là où on met notre argent qu'en fait on va renforcer l'amour qu'on a pour les choses. Si vous commencez à donner pour des missionnaires, pour des missions, l'évangélisation, le travail missionnaire va devenir de plus en plus important dans votre cœur. Le verset 8, en fait, exprime le fait que Paul leur n'hésite pas à comparer, il parle de l'empressement des autres, parlant des Macédoniens vis-à-vis des Corinthiens. Globalement, il n'a aucun problème à mettre les gens en comparaison. Il n'est pas question de comparer ce que donne chaque personne ou de comparer le pourcentage donné. Il ne s'agit pas d'instiller un esprit de compétition, de devoir. Mais Jésus leur dit, si vous avez plus, vous devriez donner plus. Les Corinthiens étaient bien plus riches, c'était une région très prospère que la Macédoine. Mais surtout, Jésus va utiliser l'exemple ultime, celui de Jésus-Christ. Verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Ça, c'est un verset à mémoriser.
This is a verse to be memorized.
C'est un verset sublime qui résume l'Évangile de façon super concise.
It's a great verse that summarizes the gospel.
Spurgeon a prêché 9 sermons différents sur ce verset.
Charles Spurgeon taught 9 different sermons on this one verse.
L'idée, c'est qu'on doit donner parce qu'on sert un Dieu qui donne. Et si nous sommes de plus en plus rendus semblables à son image, nous allons devenir de plus en plus généreux. Quand est-ce que Jésus était riche? C'est pas quand il était sur terre. Tout ce qu'il avait sur terre, c'était des choses qu'il avait empruntées. Il avait emprunté une mangeoire, la crèche. Quand il prêchait, il empruntait un bateau. Il a emprunté la tombe de quelqu'un. Il avait dû emprunter un âne. Non, il était riche avant de venir sur la terre. Jésus était Dieu. Dans l'intimité de la Trinité avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Et la pauvreté, c'est toujours plus dur quand on a été riche avant. Jésus aurait pu choisir d'être l'homme le plus riche du monde, mais il ne l'a pas fait pour nous, pour que nous nous soyons enrichis de façon spirituelle, de façon éternelle. Il n'a pas choisi d'être riche pour d'abord nous montrer la générosité de Dieu, pour nous faire réaliser deuxièmement que les choses matérielles ne sont pas importantes. Pour être accessible, troisièmement.
And thirdly, to be accessible.
On n'ose pas aller parler à Bill Gates.
We don't dare speak to Bill Gates.
Il y a probablement des rideaux d'agents secrets à passer.
There's probably a lot of different, secret service people to get through.
Mais on peut parler à quelqu'un qui est humble, qui est pauvre.
But we can speak to someone who's humble, who's poor.
Quelque part, ça nous force à nous humilier, devenir un sauveur qui est pauvre.
And somehow that forces us to become humble, to go to a poor savior.
C'était le plan de Dieu qui a rendu notre salut possible, qu'il vienne en abandonnant toutes ses prérogatives divines, sa richesse divine. Paul le rappelle donc verset 10 et suivant que ce n'est pas le tout d'avoir décidé, il faut agir maintenant. Verset 12, il leur dit, il ne s'agit pas de donner ce que vous n'avez pas, il ne faut pas être stupide. Mais on peut remarquer que ce qu'on a dépend de ce qu'on dépense, et peut-être que Dieu peut nous aider à dépenser plus sagement. Il ne s'agit pas de nous exposer à la détresse pour le soulagement des autres. Il ne s'agit pas de dire, bon, ben, je vais tout donner, je vais être malheureux, eux vont être bien. Mais de dire qu'en fait, c'est un peu comme les vases communicants. Quand j'ai de quoi donner aux autres, je dois donner aux autres. Que peut-être que moi aussi, j'aurai moins un jour, j'aurai besoin d'aide. et les autres me donneront. C'est un principe d'égalité.
And it's a principle of equality that as I give to others, they in turn will give back to me, and that the levels will be balanced out in the long run.
Et il rappelle un verset de l'Exode lorsque les Hébreux, les Israélites comptaient sur la manne céleste pour manger.
And he reminds them of a verse in Exodus when the Israelites were dependent on the manna to eat.
Celui qui en avait récolté beaucoup le matin, cette chose blanche qui était tombée, on ne savait pas ce que c'était, on disait qu'est-ce que c'est. Ça voulait dire, en hébreu on disait manna, manna.
The one who gathered much in the morning of this white stuff that had fallen, they didn't know exactly what it was.
Celui qui en donnait, recevait beaucoup allait le donner à ceux qui en avaient, s'étaient levés plus tard, n'en avaient pas autant. Par contre, celui qui essayait de garder ça pour le lendemain, ça pourrissait, ça devenait quelque chose qui sentait mauvais, qui était pourri. Et de la même façon, lorsqu'on garde notre argent, qu'on le thésaurise, qu'on en fait comme un trésor, comme Harpagon, ça devient quelque chose qui sent mauvais, qui est horrible, qui donne du mal. Donner gracieusement. Jésus nous fait une promesse.
Jesus makes us a promise.
Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
There is more happiness in giving than receiving.
Nous allons nous arrêter là et continuer sur ce sujet. Il y aura deux sermons sur l'argent. Il y a deux chapitres sur l'argent. Mais j'espère que vous réalisez que c'est un sujet important, spirituellement. Et je bénis le Seigneur pour votre générosité, qui est un signe de maturité. Et vous pouvez donner de votre argent. Mais n'oubliez pas de donner aussi d'autres façons, de votre temps, de vos talents, de vos dons spirituels, de votre énergie, de votre vie. Comme un signe que vous avez compris ce que c'est que la grâce de Dieu.